Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service qui s'intéresse aux foyers sociaux. Quelle est l'importance des foyers sociaux pour les enfants en situation difficile? On en parle dans cette émission avec Jean-Pierre, Monsieur Jean-Pierre qui est directeur de la maison d'accueil Ndako Yabisso. Nous aurons également, nous avons en ligne Frédéric Matadi, directeur du foyer d'accueil des enfants en rupture familiale Père Franck. Frédéric Matadi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, Frédéric. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. À la technique, Jean-Claude Siala. Tatima Poukou assure la réalisation et la coordination de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Fidèles auditeurs, bienvenue encore une fois dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Plusieurs enfants sont en situation difficile en République démocratique du Congo. Le réseau des éducateurs, des enfants et jeunes de la rue estime entre 25 à 30 000 le nombre d'enfants en rupture familiale, les enfants qui se retrouvent dans la rue, dans la ville province de Kinshasa. Conséquence, bon nombre d'enfants vivent dans la rue, bien entendu, avec toutes les conséquences fâcheuses que cela entraîne. Et pourtant, il existe des structures qui peuvent accueillir ces enfants en situation difficile. Ce sont les foyers sociaux. Alors, qu'est-ce qu'un foyer social? Quelle est son importance? Comment fonctionne-t-il? Eh bien, nous aurons les détails avec notre invité, Frédéric Matadi, directeur du foyer d'accueil des enfants, du foyer d'accueil des enfants en rupture familiale, Père Franck. Frédéric, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bien, nous parlons aujourd'hui des foyers sociaux. D'abord, c'est quoi un foyer social? Frédéric, il y a beaucoup de bruit.
Oui, je vous écoute.
Oui, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous retirer à un endroit beaucoup plus calme?
Le bruit, c'est à distance, mais je suis presque seul dans la pièce. Je me demande où. Je suis presque seul.
Mais vous êtes presque seul, mais pourtant, il y a beaucoup de bruit tout autour de vous. Si vous pouvez vous retirer encore un peu plus loin de ce bruit-là pour nous permettre de nous entretenir calmement, voilà.
Bon, j'essaye.
D'accord, essayez. Je rappelle que Frédéric Matadi est directeur du foyer d'accueil des enfants en rupture familiale Père Franck. Des questions et préoccupations par rapport à ces sujets, eh bien, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Yeah.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir.
Bien. Quelle est l'importance des foyers sociaux pour les enfants en situation difficile? Comme je le disais tout à l'heure, plusieurs enfants sont en situation difficile en RDC. Le réseau des éducateurs, des enfants et jeunes de la rue estime entre 25 à 30 000 le nombre d'enfants en rupture familiale à Kinshasa. Conséquence, bon nombre d'enfants vivent dans la rue avec toutes les conséquences néfastes que cela entraîne. Et pourtant, il existe des structures qui peuvent les accueillir, accueillir ces enfants-là. Ce sont les foyers sociaux. Alors, c'est quoi un foyer social? Comment ça fonctionne et quelle est son importance? Eh bien, nous aurons les détails par rapport à toutes ces questions avec nos invités. Vous voulez participer à l'émission? Eh bien, appelez-nous au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous disons merci à tous les internautes qui ont réagi. Nombreux sur la page Facebook de l'émission Capi Service, je vais lire tout à l'heure. Les réactions, monsieur, nous allons accueillir d'abord notre invité. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il s'agit de monsieur Frédéric Matadi. Monsieur Frédéric, maintenant c'est bon?
Oui, ça va, je vous écoute.
D'accord. Alors, la première question est de savoir, il y a toujours beaucoup de bruit là-bas.
C'est regrettable.
Monsieur Frédéric, alors allons-y, c'est quoi un foyer social?
Bon, le foyer social, c'est un endroit où on recueille les enfants en situation difficile. Le cas du foyer Père Franck, nous fonctionnons en milieu ouvert, c'est un foyer d'accueil où nous accueillons les enfants en situation difficile qui viennent eux-mêmes. Nous les recevons, on essaie de les restaurer pour que, petit à petit, on essaie de les remettre en chantier.
Voilà, donc c'est un endroit où les enfants sont recueillis. Alors, quels sont les services que vous offrez à ces enfants au niveau du foyer social?
Oui, à notre niveau, les enfants qui viennent, nous essayons de les recueillir. Souvent, ils nous arrivent très sales. Alors, en ce moment, on les envoie d'abord chez prendre les bains. Et s'il est mal vêtu, on lui trouve un petit vêtement qu'on lui donne. Des fois, ils sont aussi sans chaussures, on essaie de les chausser. Dans les cas où il est malade, on l'oriente vers le dispensaire parce que sur place, nous avons notre dispensaire. Et s'il est affamé, on lui trouve quelque chose à manger. Ça, c'est la première des choses à faire dès qu'il arrive. Et aussitôt, quand il a terminé avec ça, allô?
Oui, oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, aussitôt qu'il a terminé, maintenant on commence avec lui pour chercher son identité. Dans l'identité, il nous donne son nom, son post-nom, son prénom, le nom de son père, le nom de sa mère, la province d'origine, la langue qu'il parle et au besoin, ce qu'il peut manger régulièrement. Et le nom de papa, j'ai dit, si le papa est en vie, il nous dit, si le papa est décédé, il nous dit, le nom de la maman, si la maman est en vie ou elle est décédée, il nous dit. Et après, on établit sa fiche. Après l'établissement de sa fiche, maintenant, on commence avec lui, et quant à son établissement, et par rapport à nos règles de service. On doit lui dire ce que nous faisons. Et sur place, ce que nous faisons, c'est de faire les sensibilisations. Montrer à cet enfant que la rue n'est pas une bonne chose. Et que la rue offre beaucoup de dangers pour les enfants. Alors, s'il accepte ces règles, il reste avec nous. S'il n'accepte pas comme nous fonctionnons en milieu ouvert, il est libre de partir. Comme ils sont champions de chercher des structures, ils en connaissent beaucoup. Dans le cas où il trouve qu'il peut aller ailleurs, il va. Mais s'il trouve qu'il peut rester avec nous, il reste avec nous. Alors nous allons continuer la sensibilisation avec lui, continuer à sensibiliser l'enfant pour lui montrer que les dangers sont permanents dans la rue. Alors, entre-temps, sur place, par rapport à l'identité qu'il a déclinée, si l'enfant n'a pas encore étudié, on le soumet à l'alphabétisation. Mais dans les cas où il a déjà étudié quelque part et qu'il a arrêté par rapport à la rupture familiale, là, on le récupère, il fait la remise à niveau. Et petit à petit, pendant un bon bout de temps, chez nous, plus ou moins, c'est entre 9 et 12 mois, en ce moment-là, on sélectionne ceux qui ont vraiment été assidus, qui ont été réguliers, qui viennent chaque jour, qui sont là, ils suivent l'alphabétisation chaque jour. il répète avec nous chaque jour. Ceux qui sont les plus réguliers, les plus fréquents, ceux-là sont sélectionnés pour aller dans un autre centre de dénigrement. Voilà un peu en gros ce que nous faisons avec eux.
Bien, on va accueillir un auditeur, Xavier Safeli, depuis Lubumbashi. Bonjour Xavier.
Bonjour, je dis Kachama.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, merci de la parole. Oui, c'est un très très bon sujet. Vous savez, le phénomène d'enfants rues est partout à travers le pays, surtout dans des grandes villes. Mais ici, il faut signaler que, en tout cas, le foyer social, c'est vraiment très 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 important et ça joue un rôle très crucial.
Oui, Xavier? Il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Alors, un internaute nous a écrit, il dit « L'importance de foyers sociaux est sans doute cruciale. Les foyers sociaux ont le rôle de rendre utiles les enfants de la rue en leur apprenant les métiers, en les éduquant pour qu'ils deviennent moralement sains et spirituellement équilibrés. Pour bien organiser ces foyers sociaux, il faut doter... à ces structures, un personnel qualifié, les psychologues, sociologues et autres des formations et pratiquants. Cependant, pour bien lutter contre ces fléaux sociaux séculaires, il faut éduquer notre société. L'un des défis majeurs, c'est l'éducation de notre société. Bien, Frédéric Matata, votre réaction par rapport à cela?
Frédéric Matadi, pardon.
Votre réaction?
Oui. Oui, nous sommes un centre organisé. Nous existons depuis février 1981. Jusqu'en février de l'année prochaine, de cette année plutôt, nous totalisons 40 ans. Parmi les enfants que nous avons déjà accueillis, nous avons même déjà obtenu des médecins. C'est-à-dire que nous faisons bien le travail. Nous accueillons les enfants de 7 à 8 jusqu'à 15 ans. 14-15 ans. Et les enfants sont répartis, comme je venais de le dire tout à l'heure là. Les enfants sont répartis selon l'âge et selon leurs besoins. Ceux qui sont trop jeunes, ce sont ceux-là qui nous préoccupent pour la scolarité. Les autres, après l'alphabétisation et la remise à niveau, nous les envoyons en formation selon leurs besoins aussi. Il y en a qui vont en auto-école, il y en a qui font la coiffure, il y en a qui font l'hôtellerie, il y en a qui font la coupe et couture. Sur place, chez nous, nous organisons l'hôtellerie, la coupe et couture et la coiffure esthétique. Alors, d'après les fonctions des éducateurs, nous avons des éducateurs spécialisés. Presque 99% de nos éducateurs ont été formés sur les CAFES, c'est une institution universitaire qui forme les travailleurs sociaux. Donc presque tous sont passés sur les CAFES. Et nous avons des psychologues à notre sein.
Voilà, vous avez des psychologues, des sociologues aussi.
Oui. Le travail s'est fait sans relâche. D'ailleurs, quand vous venez chez nous, la porte ne se ferme pas. Je parle ici du milieu ouvert. Nous commençons à 7h, la première rotation jusqu'à 13h, de 13h à 19h et de 19h jusqu'à l'aube. Alors, jusqu'à présent, notre difficulté, c'est du fait simplement que nous n'avons pas de subsides. Nous n'avons pas de subsides, l'État ne reconnaît pas ça. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Ce sont des gens comme vous, les journalistes, qui pouvaient peut-être nous aider. Et nous fonctionnons vraiment avec les moyens de bord. C'est quelques donateurs, quelques ambassades, l'église, comme c'est entre les mains des prêtres. Ce sont les prêtres eux-mêmes, mais nous avons quand même des gens de bonne volonté qui nous aident pour la scolarité des enfants. Au niveau de l'université, il faut là des gros moyens. S'il y a un ou deux qui acceptent de financer les enfants qui vont à l'université, alors en ce moment-là, ils peuvent oser. Sinon, on s'arrête au niveau du secondaire, ceux qui obtiennent les diplômes, et on continue la vie. Mais sinon,
oui,
ceux qui vont en métier, quand ils ont terminé la coiffure, l'hôtellerie ou la coupe et couture, la structure s'organise avec nos donateurs pour trouver, pour la coiffure par exemple, des salons. On leur donne quelques instruments qu'il faut. Pour la couture, même chose. On essaie de trouver quelques machines à coudre, ainsi que pour l'hôtellerie. Et en ce moment, les enfants essaient de s'autonomiser et ils sont relancés dans la société.
Bien.
Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire comme travail. Mais
d'accord,
vraiment, on le fait avec les moyens de bord, sans aucun subside de l'État.
Gilbert Makama nous appelle de Kananga et Tambweka Songo de Beni. Gilbert, bonjour.
Bonjour, M. Jody, et à tous les auditeurs de la radio Capi et à continuer votre invité.
On vous écoute, Gilbert.
Ok, merci pour l'octroi de la parole et aussi de l'intérêt que vous accordez à nos différents commentaires sur vos différentes thématiques. Par rapport au thème du jour, moi je pense que les rôles des foyers sociaux, c'est juste pour sauver la vie des Congolais qui sont abandonnés à l'air plus fort par l'État congolais. Et c'est là, moi, je demanderai volonté de toujours en aide à cette catégorie d'enfants. Parce que si nous espérons toujours que l'État puisse faire toujours quelque chose, je pense que la situation pourrait toujours s'empirer. Et à cela, j'interpelle aussi au ministère des Affaires sociales de prendre à bras cette situation. Parce que je pense que cela relève aussi de ses attributions. Et pour finir, je demande au gouvernement congolais de toujours assumer ses responsabilités. Parce que toute cette catégorie des enfants sont toujours les patriotes congolais. Je ne vois pas pourquoi l'État congolais reste toujours indifférent dans des situations aussi très, très, très cruciales aussi. C'est ça, en quelques lignes, ma très petite contribution de ce jeudi. Je vous remercie et à la prochaine.
Bien, merci. Tambwe Kasongo de Beni, bonjour.
Oui, bonjour M. Jody et bonjour à l'invité du jour.
On vous écoute, Tambwe.
Oui, les foyers sociaux ont une très grande importance parce qu'ils permettent le bon encadrement des enfants en situation difficile, car les tuteurs qui sont là permettent de leur donner les conseils et les montrer le savoir vivre en société. Alors, suite au manque de ces foyers-là, ou soit leur minorité en République démocratique du Congo, laisse à ce que ces enfants se lèguent dans la rue et cela augmente les cas de vol ainsi que de criminalité urbaine. Parce que ces enfants n'ont pas de famille, ou soit ceux qui ont des familles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, ils ont déjà perdu leurs parents et leurs alliés. À l'occurrence de notre ville et territoire de Beni, où les rebelles égorgent tous les membres de la famille et, grâce à Dieu, il peut rester seulement un ou soit des enfants. C'est ce que je dis. Notre gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les autorités ne doivent pas à chaque fois voir seulement leur propre vie, la vie de leurs enfants ainsi que de leur propre famille, ou soit parti ou soit regroupement politique. Alors que nous, les électeurs, nous sommes dans la misère. Nous vivons dans la misère. Et il faut aussi améliorer la vie de ces peuples-là. Mais si je dis, la population de Beni a besoin de la paix, parce que lorsqu'il y a la paix, ça va nous permettre à ce que d'effectuer nos activités et de subvenir aux besoins de nos enfants. Voilà ma petite contribution par rapport au sujet du jour. Merci.
Bien, merci Tambwe depuis Beni. Ingénieur Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux foyers sociaux?
À ce niveau du débat, moi je me redirais ici. Ces enfants que nous voyons dans la rue, ce sont des enfants qui méritent aussi de choix comme tant d'autres. Surtout, nous demandons à notre gouvernement de pouvoir allouer les moyens pour faciliter et les bienfaiteurs de pouvoir faire le mieux possible pour aider les enfants. Parce que c'est là qu'ils se trouvent dans la rue, ils sont exposés. À part le décès des parents de ces enfants, il y a aussi le cas des enfants qui n'ont pas assez de moyens pour garantir et supporter les enfants. Sur ce, nous demandons à nos parents aussi, dignes de leur nom, de pouvoir mettre au monde les enfants qui sont capables de prendre la charge. Parce que cette situation vient que les conditions de vie des Congolais n'est pas améliorée. C'est ça ce que je voulais dire à ce niveau du débat. Merci.
Bien, merci. Frédéric Matadi, votre réaction, comment vous, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs?
Oui, je voulais simplement dire que parmi les enfants que nous recevons chez nous, nous accueillons, et si on les met à la place publique, je pense que beaucoup de gens ne vont pas se retrouver. Jadis, il n'y avait que quelques cas rares, mais actuellement, nous avons des enfants des déplacés de guerre qui sont partis de l'Est. Les cas de Kamwana Sampo dans les Kassai. Beaucoup de cas de rupture, des familles nombreuses, des enfants dont il y a vraiment la sécheresse chez eux, des enfants qui mangent peut-être une fois après deux jours. Ce sont des cas, quand on doit vous les étaler, vous risquez de dormir debout. Et tout ça, il faut une main supplémentaire, je pensais à l'État. L'État qui pouvait prendre en charge, ne fût-ce que les gens qui s'occupent de ces enfants-là. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait, mais nous, on continue quand même notre bon chemin. Et on essaie de faire ce qu'on peut faire selon les possibilités. Bon, nous, Dieu seul le sait, où est-ce que nous allons aboutir?
Alors, Monsieur Frédéric, par exemple, au sein de votre foyer social, vous hébergez combien d'enfants?
Nous fonctionnons à milieu ouvert, là où je vous parle. Nous allons, par jour, on peut arriver entre 60 et 70 enfants, par jour.
60 et 70 enfants. Vous fonctionnez à milieu ouvert, qu'est-ce que cela veut dire?
À milieu ouvert, je vous dis au début que c'est un centre d'accueil. C'est ici où les cheminements commencent dans notre œuvre. Nous accueillons les enfants, on les identifie et après, observation, on peut les envoyer en hébergement. Nous avons des centres d'accueil, les cas du foyer Père Franck et des centres d'accueil comme le foyer Père Franck et des centres d'hébergement. Nous avons des centres d'accueil pour filles, nous avons des centres d'accueil pour garçons, nous avons des centres d'hébergement pour filles, nous avons des centres d'hébergement pour garçons.
Bien. Alors, pour qu'un foyer social fonctionne très bien, qu'est-ce qu'il faut réunir comme éléments?
Les éléments, il faut d'abord avoir des bâtiments. Des beaux bâtiments équipés en lits et en chaises. Et les enfants que vous accueillez, ils doivent manger. Il faut une bonne alimentation. Ils doivent être vêtus. Ce sont des hommes. Ils ont des besoins comme les enfants que nous avons à la maison. D'ailleurs, ce sont des enfants qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont fui les difficultés chez eux. Et d'autres sont déclarés sorciers par des différentes églises. Alors, tous ces enfants qui se retrouvent, il y en a qui n'ont jamais vu leurs parents. Il y a des orphelins purs qui n'ont jamais vu papa, qui n'ont jamais vu maman. Et ces enfants ont des besoins comme tous les enfants de Kinshasa, comme tous les enfants du village. Il faut réunir l'alimentation, il faut réunir les moyens pour les faire dormir, c'est-à-dire il faut des matelas, il faut des lits, il faut des habits, des couvertures, il faut une bonne alimentation, il faut les soigner dans les cas où ils tombent malades. Ce sont là la primauté.
Bien. On va accueillir Maître Gilbert Massoudi de Puikindou. Maître Gilbert, bonjour.
Bonjour, monsieur. J'ai dit bonjour à l'invité et bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation, Maître Gilbert?
Merci beaucoup, monsieur. J'ai dit de m'avoir accordé la parole. Ma préoccupation est celle-ci. Il faudrait que les parents encadrent bien tous les enfants qui sont en situation difficile. Et cet encadrement doit être accompagné par une bonne éducation et le respect des droits de l'enfant. Ainsi que l'État congolais doit aussi accompagner d'encadrer bien les enfants qui sont délaissés par les différentes familles. Parce que ce sont les gens. Il y avait les enfants qui sont délaissés par les familles, qui sont les sorcelleries et d'autres qui sont voleurs. Mais l'État congolais a laissé ces enfants-là. Maintenant, j'aimerais poser la question à l'invité. Pourquoi l'État a laissé les différents enfants là pour que qu'ils ne puissent pas bien encadrer. Et l'État est maître de tout. Et deuxièmement, il faudrait que les services de l'UNICEF doivent aussi intervenir, parce que les services de l'UNICEF et aussi se trouvent dans le développement des enfants bien encadrés. C'est ce que j'ai préparé ce matin.
Bien, merci. Jean-Pierre Passois, vous êtes à Mikalaï. Bonjour.
Bonjour, cher Jodine, et bonjour à l'invité et à tous les millions d'auditeurs qui nous écoutent à ce moment.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jean-Pierre?
Oui, cher Jodine, vraiment, concernant cette thématique du jour, sur le premier point concernant l'importance des foyers sociaux pour les enfants en situation difficile, j'ai essayé un peu de résumer en trois plans. Le premier, c'est sur le plan social. Sur le plan social, le foyer social, c'est un lieu d'accueil, d'abri pour tout enfant qui est en difficulté. Et ici, quand il arrive, on lui donne à manger, les habits, il a droit aux soins. Sur le plan environnemental, ici, l'enfant se voit dans un entourage avec d'autres enfants comme lui. Il essaie un peu de s'adapter, tant bien que mal, comme dans une famille. L'enfant se sent aussi à l'aise avec ses proches. Il essaie un peu d'oublier le facteur favorisant de ce qu'il a poussé à être dans ses foyers. Notre plan, c'est sur le plan éducatif et professionnel. Ici, l'enfant se voit être encadré dans un métier quelconque. On apprend certaines notions de savoir-vivre et savoir-faire. Et il devient autonome quand il sera grand. Et concernant sur le plan comment organiser les services d'encadrement dans ces structures, ici, l'État congolais, à travers son ministère des Affaires sociales et humanitaires, devrait d'abord passer au recensement et identification dans toutes les provinces. Il identifie et recense les centres d'encadrement et les orphelinats qui sont censés garder les enfants en situation difficile. L'État doit aussi essayer à mécaniser tous ces foyers, tous ces centres d'encadrement des orphelinats. Ils doivent être mécanisés et payés. Tous les personnels qui œuvrent doivent être aussi payés. Sinon, s'ils ne sont pas payés par l'État, au ministère des Affaires sociales, ça pose un peu de problème. Et l'État doit aussi doter des moyens conséquents pour leur croissance, leur éducation et leur formation en plusieurs métiers, pour qu'à l'avenir, les enfants puissent être autonomes et utiles pour servir la nation. Voilà une petite préoccupation, cher Jody, et je vous dis merci.
Bien, merci à vous. Frédéric Matadi, votre réaction. Monsieur Frédéric, vous êtes là?
Qu'est-ce que l'État fait? Mais l'État, il faut poser la question à l'État. Nous avons le ministère des Affaires sociales. Ils savent que ces enfants en situation difficile existent. L'État sait que les gens n'ont pas de travail et qu'il y a des familles nombreuses et que même ceux qui sont payés ne se suffisent pas. Alors, est-ce que c'est à nous d'aller demander à l'État de venir nous prendre en charge? Et même si on demandait les cas de l'ORPE, nous avons écrit pour que l'État nous prenne en charge, hein, même partiellement. Mais jusqu'à présent, c'est demeuré lettre morte.
Est-ce que vous travaillez, hein? Vous travaillez en collaboration avec le ministère des Affaires sociales?
Le ministère des Affaires sociales a donné des documents. Ils savent que nous sommes fonctionnels, mais nous ne recevons aucun subside, aucune assistance. Mais du moins, ils savent que nous existons.
Bien.
Et les enfants que nous accueillons, ceux qui sont dans les ateliers, ils présentent des tests à la fin de l'année et ils obtiennent des brevets. Ils sont assistés par... il y a un assistant du ministère des Affaires sociales qui vient pour leur donner des brevets. Mais nous n'avons aucun subside.
Bien, alors Monsieur Frédéric Matad, il y a peut-être des personnes de bonne volonté qui sont touchées et qui voudraient bien venir en aide, assister, soutenir votre centre d'accueil. Comment entrer en contact avec vous?
Bon, entrer en contact avec nous, je crois que l'adresse d'abord, nous sommes sur l'avenue Popo Kabaka numéro 38 dans la commune de Kassavubu, sur le parage de Rond-Point Victoire. Et l'avenue Popo Kabaka traverse la maison de la Bible pour ceux qui connaissent le Rond-Point Victoire. Là, c'est l'adresse de notre foyer.
Oui.
Mais nous avons des numéros. Je crois, le numéro que vous avez là, c'est mon numéro.
C'est lequel, si quelqu'un veut. C'est lequel, vous pouvez les donner rapidement.
Oui, c'est le 081.
Oui.
144.
Mmh.
21 56.
081 144 21 56. D'accord.
Oui. Et je l'ai aussi sur WhatsApp, le même numéro.
D'accord, vous êtes aussi sur WhatsApp. Bien, merci, oui. Merci Frédéric Matad. Nous rappelons que vous êtes directeur du foyer d'accueil des enfants en rupture familiale, Père Franck. Vous êtes sur Popo Kabaka 38 dans la commune de Kassavubu à Kinshasa. Merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse.
Urban Scene, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tout le jeudi et vendredi à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Quelle est l'importance des foyers sociaux pour les enfants, pour l'encadrement des enfants en situation difficile? Bien, nous allons accueillir un deuxième invité. Il s'agit du Père Jean-Pierre, directeur de la maison d'accueil Ndako Yabiso. Père Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service.
Merci beaucoup.
Alors, c'est quoi un foyer social et quels sont les services qui sont rendus là-bas?
Je pense qu'il faut bien poser la question. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons plus de 25 000 enfants qui sont dans la rue. Et la question, ce n'est pas de chercher des orphelinats ou des foyers qui vont garder ces enfants à la place de leur famille. Oui, nous accueillons ces enfants, mais la place d'un enfant, l'identité d'un enfant,
c'est dans sa famille.
C'est sa famille. Sa famille élargie. Peut-être que les parents sont décédés, peut-être qu'il y a un conflit familial, qu'il y a des gens qui ne veulent pas le voir, mais il y a toujours un oncle, il y a un grand-père, il y a une grand-mère quelque part. L'identité d'un enfant et la place d'un enfant, c'est dans sa famille. Ça ne sert à rien de constituer des orphelinats et des foyers de plus en plus nombreux. La question, c'est d'avoir bien sûr un lieu d'écoute, un lieu d'accueil, un lieu d'hébergement provisoire. Et dans la rue, avec une équipe d'éducateurs sociaux et de psychologues, même d'avoir également toute cette démarche d'écoute des enfants, d'enquête, de recherche des familles, de pouvoir dire qu'est-ce qui a conduit l'enfant dans la rue? Est-ce que c'est la misère? Parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Est-ce que ce sont les conflits familiaux? Est-ce que ce sont certains pseudo-pasteurs d'église de réveil qui viennent dire à la famille que l'enfant est un sorcier et qui font peur à tout le monde? Alors voilà, quelle est la situation vraie de l'enfant? Comment est-ce qu'on peut réconcilier l'enfant avec sa famille? Si c'est seulement la misère, comment aider la maman de la famille à retrouver quelques moyens pour pouvoir survivre, faire son petit commerce ou son activité? Si c'est des conflits familiaux, comment gérer ces conflits et trouver une réconciliation au sein de la famille? C'est ça le centre de le centre auquel il faut chercher.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé à réintégrer, disons à ramener certains enfants dans leur famille? Parce que vous avez dit la place de l'enfant, c'est la famille.
Alors, Alors, vous nous téléphonez juste au moment où nous sommes dans notre journée d'évaluation annuelle. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était peut-être plus difficile de m'en contacter. Et le chiffre vient de sortir de l'année passée, vient de sortir il y a une heure. Donc, nous avons réussi cette année 2020, malgré les périodes de confinement, où bien sûr les enfants ont été confinés, 80 enfants ont été confinés dans notre centre, mais sur l'ensemble de l'année, 186 enfants ont été réunifiés dans leur famille, garçons et filles, avec un taux de rechute de 16%. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc vous voyez, c'est comme si nous avons vraiment ensemble cette même démarche avec aussi bien les agents de l'État, les éducateurs sociaux, les ONG concernées, si il y a cette sensibilisation de la population, de dire que ces enfants dans la rue ne sont pas des petits bandits, des petits sorciers, des petits brigands, comme on les appelle, mais que ce sont des victimes de la société, des jeunes qui ont des droits et qui doivent retrouver leurs droits, et pour lesquels nous devons ensemble nous battre sans les mépriser et sans les rejeter.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Patrice Moudéroy de Bukavu et Christian Baka de Kinshasa. Patrice, bonjour.
Bonjour, et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Patrice.
Oui, il faut dire que dans certains endroits, surtout en milieu rural, les enfants en situation difficile sont abandonnés à leur triste sort. L'État congolais ne leur donne pas en aide. L'encadrement de ces enfants, au travers de la prise en charge scolaire, médicale, l'alphabétisation, la conscientisation, la formation en métier et artisanat, l'intégration et la réinsertion sociale, seraient le rôle de ces maisons d'accueil. Et donc, je pense que l'État doit accueillir ces maisons d'accueil à leur venant en aide à moyens financiers.
Bien, merci. Christian Baka, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Christian.
Oui, moi je voudrais dire ceci. Au Congo, des milliers d'enfants orphelins sont rejetés, négligés sous prétexte que ce sont des sorciers. Alors, les parents congolais, donc les Congolais doivent d'abord naître ceci, donner naissance signifie être capable de prendre en charge la vie d'une personne dès sa naissance jusqu'à l'âge d'adulte. Cela n'est pas le cas aujourd'hui au Congo. Lorsqu'on est incapable de nourrir ses enfants, subvenir par exemple à leurs besoins, ces derniers deviendront mendiants. Très souvent, et Kinshasa qui le constate actuellement, la réapparition des enfants aux conditions difficiles. Et ce sont des voleurs. Aujourd'hui, on les appelle chegue. Donc les Congolais réfléchissent d'abord. Lui-même se pose la question avant de donner naissance, qui sera capable d'assumer les exigences d'un enfant. Et on doit aussi cesser de condamner toujours ces enfants. Pourtant, certains parents ne sont pas capables de répondre à leurs différentes attentes. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bien, merci. Père Jean-Pierre, votre réaction?
Oui. Moi, je crois que ce qui est dit est très juste, hein. C'est comme on est dans une situation difficile, socio-économique difficile, où beaucoup de familles ont des enfants les parents n'ont pas d'emploi, et donc la famille est vraiment en situation difficile. Comment, en fait, la prévention, c'est plus comment arriver à avoir un développement économique dans ces quartiers périphériques, souvent en situation difficile, et puis aussi au niveau mentalité. Comment est-ce que nous pouvons encore tolérer que certaines églises de réveil accusent des enfants de sorcellerie? Un enfant n'est pas sorcier. Dans toute la culture traditionnelle des sorciers, c'était des personnes âgées, des personnes âgées handicapées ou en difficulté. Mais un enfant dans toutes les cultures africaines est un trésor au cœur de la famille. Qu'est-ce que c'est que cette accusation d'enfant comme sorcier? Nous devons retourner à la réalité et dire un enfant n'est jamais un sorcier. Un enfant, c'est un don de Dieu et dont nous sommes tous responsables.
Voilà, nous sommes tous responsables. Alors donc, ces foyers sociaux ne sont pas des endroits où on doit garder les enfants, mais c'est, on peut dire, des endroits de transit pour les réinsérer, les ramener dans leur famille.
Absolument. Les foyers sociaux doivent être des lieux de passage où l'enfant est accueilli, soigné, écouté pour son traumatisme, peut-être remis à niveau et à une base d'alphabétisation. Bon, il peut toujours y avoir des cas. Nous avons parfois des cas d'enfants dont on ne retrouve personne de la famille, malgré la présentation à la télévision, malgré la présentation dans certains marchés. Surtout, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des problèmes d'enfants handicapés mentaux qui ne savent pas eux-mêmes donner une adresse de la famille ou qui sont complètement abandonnés. Il y a des cas où nous cherchons alors des familles d'accueil ou des familles d'accueil transitoires ou des centres d'accueil où ces jeunes peuvent recevoir justement l'accueil, l'éducation, la formation professionnelle nécessaire. Nous préférons donner dans toute la mesure du possible, les appuis via un membre de la famille. Si la famille est dans la misère totale, comment nous pouvons essayer d'appuyer la famille avec une petite activité génératrice de revenus, appuyer la famille pour la scolarité de l'enfant, appuyer la famille pour une formation professionnelle de l'enfant et essayer ainsi de reconstruire la famille.
Bien. Quelle est l'importance des foyers sociaux pour les enfants en situation difficile? Alors, comment vous arrivez à réinsérer ces enfants dans leur famille, surtout les enfants qui sont chassés, accusés de sorcellerie? Je pense que c'est pas facile. Comment vous arrivez, tant bien que mal, à les ramener, à les réunifier?
Oui. Alors, vous posez une très bonne question. Parce que c'est sûr que, en gros, 60% des enfants dans la rue, c'est la misère. Et 40%, c'est les conflits familiaux. Quand un enfant est dans la rue à cause de la misère, la réunification, dans un sens, est plus facile parce que la famille n'a pas rejeté l'enfant, simplement il n'y a rien à manger à la maison. Dans certains cas, ce sont même les enfants qui doivent nourrir les parents en allant mendier. Même dans les...
Allô, Père Jean-Pierre?
Souvent, ce que nous essayons de faire, c'est d'une part d'essayer de voir au niveau de la famille élargie, est-ce que toute la famille vraiment comprend cet enfant, du côté paternel, du côté maternel, est-ce qu'il n'y a pas une grand-mère, une tante qui considère que cet enfant est vraiment un bon enfant? Voilà, on a eu un cas comme ça il y a quelques mois, un enfant tout à fait rejeté par sa famille comme sorcier. À la bonne année, tous les enfants qui sont dans nos centres, nous les envoyons vers les familles parce que c'est quand même un jour de fête et d'unité dans la famille. L'enfant est revenu ce jour-là avec encore chassé comme sorcier malgré le jour de la bonne année. Même sur le chemin, en revenant, il a rencontré un cousin qui lui a dit « Mais peut-être que papa peut t'accueillir. » Nous avons directement été visiter les parents de ce cousin. Il nous a dit « Oui, ben je le connais, c'est un lointain cousin, mais non, ce n'est jamais un sorcier. » Donc, malgré la pression d'autres membres de la famille, ce cousin a récupéré l'enfant et l'enfant maintenant est en train de terminer son école secondaire très content. Donc, l'année passée, nous avons eu 13 jeunes comme ça qui ont été dans la rue réunifiés et qui ont eu leur diplôme d'État. Et 35 jeunes l'année passée qui ont été dans la rue et puis qui ont pu avoir leur brevet d'État en formation professionnelle. Donc un avenir est possible, même ça demande, ou alors dans certains cas, quand la famille est vraiment convaincue de cet aspect de sorcellerie, nous disons à la famille que nous pouvons venir, que d'abord l'enfant a été avec nous et ne nous a pas ensorcelés, que nous pouvons aller prier avec la famille si c'est nécessaire. Nous avons également des prêtres et des pasteurs qui sont dans notre équipe. Et si c'est nécessaire, que nous devons dénoncer des pratiques de certaines églises de réveil qui emprisonnent les enfants dans des églises, soi-disant pour des prières de guérison.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Dirson Senda, il nous appelle depuis Libengue, et puis Maître Edmond Mbokolo de Mbandaka. Dirson Senda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Dirson?
Oui, je voudrais m'adresser à monsieur l'intervenant et les organisateurs des foyers sociaux. Ils doivent savoir que les foyers sociaux sont des foyers créés par les personnes de bonne volonté qui ont voulu prendre en charge les enfants abandonnés, les enfants orphelins. Or, nous avions appris dans l'organisation pratique de l'entreprise, avant d'organiser une chose, il faudrait budgétiser. Ils savaient qu'ils ont la possibilité, c'est pourquoi ils ont créé le foyer social dont ils ont voulu prendre en charge tous ces enfants mis sur la route. Ils ne peuvent pas dire qu'il faudrait que le gouvernement ou l'État puisse financer ou les prendre en charge. Ça, si le gouvernement pouvait soutenir, c'est à second lieu. Mais au premier lieu, eux-mêmes, les organisateurs de foyers sociaux doivent prendre en charge. Soit s'ils voient qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre ces enfants à charge, ils peuvent écrire soit une lettre de demande de partenariat à UNICEF, qui est une agence des Nations Unies bien disposée pour prendre en charge les enfants. Mais la première des choses, eux-mêmes les organisateurs, ils doivent prendre ces enfants en charge parce qu'ils ont créé ces foyers sociaux seulement pour encadrer ces enfants. J'avais donné l'exemple dans mon commentaire. Prenons par exemple moi, je suis le directeur de la radio RIRA de Libengue, une radio politique de politiciens. Je suis chômeur, enseignant NU. Mais chez moi, à la maison, j'ai ces deux enfants dont j'ai adopté. Je les reprenne en charge, que ce soit le loger, la santé, la scolarité, tout ça c'est moi-même qui paye. Tant que j'avais voulu, j'avais cette volonté de les prendre en charge, je n'étais pas allé encore auprès de l'État pour demander une aide ni quelque part. Parce que moi-même, je m'étais connu, je m'étais su, je m'étais bien disposé avant de prendre ces enfants en charge. Voilà un peu ce que je voulais demander aux responsables des foyers sociaux de faire qu'ils ne tirent pas profit auprès de ces enfants.
Merci Dirson. Maître Edmond, bonjour. Maître Edmond Mbokolo de Mbandaka, bonjour. Il n'est plus là. Père Jean-Pierre, vous avez la parole.
Oui, je pense que votre auditeur a très bien parlé. Hein. Je crois que les solutions à ce travail viennent des initiatives de tous. Beaucoup de privés à Kinshasa et ailleurs sont touchés par la misère et la souffrance des enfants et pour l'initiative, l'État a mis en place des règles à respecter. L'État a un système aussi de suivi et c'est vrai que les centres souhaiteraient et auraient besoin d'un appui un peu plus important de l'État. Mais je crois que l'initiative, si dans une situation d'urgence et de misère, l'initiative est à tout le monde. Après, l'État doit pouvoir encourager, contrôler, coordonner, vérifier que les gens respectent les droits des enfants, respectent les critères d'accueil, et puis, dans la mesure du possible, bien sûr, appuyer aussi. C'est l'avenir de nos enfants. C'est la question de dire ou bien nous les laissons dehors, ils vont devenir des petits voleurs et des bandits, comme aujourd'hui. Quand ils sont mis à Makala, au pavillon 10, mélangés avec les adultes à la prison, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas possible. Il faut qu'ils puissent être dans des centres séparés.
Voilà, ils doivent être dans des centres séparés. Alors, pour terminer, Père Jean-Pierre, est-ce que, par exemple, l'année passée, vous venez de faire d'ailleurs le bilan de vos activités de l'année dernière, est-ce que vous avez pu bénéficier du soutien du gouvernement ou de certains partenaires, de l'UNICEF? Quelqu'un a parlé même de l'UNICEF qui peut vous appuyer.
Alors, oui, il y a toujours des partenaires. Bon, bien sûr, nous sommes en lien avec les autorités. Nous avons eu même l'honneur en 2020 de recevoir la visite du gouverneur de la ville dans notre centre. Donc, les autorités sont conscientes du problème, en tout cas, au moins partiellement, même si on aimerait qu'il y ait plus d'appui et plus de budget. Maintenant, oui, la deuxième partie de votre question, j'ai oublié.
Oui, c'était de savoir si vous avez bénéficié de l'appui de certains partenaires privés.
Oui. Nous avons été en contact avec l'UNICEF. L'UNICEF, pendant plusieurs années, a eu un programme d'appui aux structures. Nous avons une coordination de toutes les structures qui travaillent avec les enfants des rues à Kinshasa, le REGER, qui nous permet d'échanger nos expériences, de voir ensemble les priorités. Et puis, il y a des partenaires aussi bien locaux, par exemple, certaines entreprises commerciales à Kinshasa, ou bien certains partenaires, certaines ONG internationales qui voient cette situation de misère et qui font des gestes également.
Bien. Alors, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent vous soutenir, Père Jean-Pierre, comment vous contacter?
Le centre d'accueil de Ndako Yabisso est situé à proximité du rond-point de Gabon. Donc au niveau du triangle en dessous du rond-point. Il y a régulièrement des paroisses, des groupes de jeunes, des ONG locales qui viennent. Et l'important, je dirais, c'est pas tellement de venir donner un sac de riz. L'important, c'est de venir partager un repas avec les enfants, de leur dire, regarde, moi je m'assieds avec toi, je partage le repas, tu as ton droit, tu as ta dignité, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas un rejeté. Et ça c'est fantastique, c'est redonner l'espérance aux jeunes. Dans nos deux centres, tant le centre des garçons que le centre des filles, le mot clé qui est écrit dans les deux centres, c'est l'espérance.
L'espérance.
Nous ne sommes pas des rejetés, un avenir est possible, mais à condition que notre regard change et que nous n'acceptions plus ces personnes et ces organismes ou ces églises qui accusent ces enfants et qui rejettent ces enfants ou qui marginalisent ces enfants.
Père Jean-Pierre,
un de vos auditeurs a dit ça tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Quand je vois un enfant comme ça, pieds nus, abandonné ou rejeté autour du rond-point, tout spécialement même une fille même de 8-9 ans, une seule nuit dehors, elle sera violentée et violée. Et c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de dire, mais non, on ne peut pas te laisser comme ça, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce qu'on peut te conduire quelque part pour que tu retrouves ta place.
Père Jean-Pierre, un numéro par lequel on peut vous joindre facilement?
Oui, le 081 687 33 97.
081 687 33 97.
Voilà.
Bien, Père Jean-Pierre, directeur de la maison d'accueil Ndako Yabisso, merci et à la prochaine.
Merci.
Bien, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous remercie. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Claude Siala, la mise en onde au micro, jeudi Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.